ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Madame Nava Daghighi. Bonsoir Madame, vous êtes franco-iranienne, vous êtes angliciste, vous avez fait beaucoup de voyages dans le monde, mais aussi dans les idées, et vous venez nous parler de votre foi, de vos convictions bahaï, une religion qui est assez mal connue en France. Merci d'accepter cette invitation. Vous êtes la deuxième de notre, on dit la saison 3, ma foi j'y crois, qui est en fait instituée à Radio Présence, cette radio chrétienne, pour faire connaître les convictions, en fait des fois sincères, de personnes qui ne pensent pas forcément comme des chrétiens.
Merci.
Que vous connaissez vous. Le christianisme.
Oui, absolument, oui.
Alors, vous êtes née à Toulouse.
Oui.
Mais votre papa est en fait est médecin. Il est toujours vivant. Il a déjà un certain âge. Et votre maman aussi était médecin.
Oui.
Et ils ont fait des allées et venues en France et en Iran.
C'est cela, oui.
Jusqu'à cette date, on va dire, dramatique des événements. On les appelle les événements.
Oui.
Avec le début de la discrimination et le début de toute une, on va dire, une persécution de ces minorités. On ne va pas rappeler ici ce qui se passe en Iran encore actuellement, mais je commence juste pour dire la situation, parce qu'il y a un bureau des communautés internationales bahaï qui travaille depuis 63 ans à défendre les droits des femmes, des enfants, des minorités. Mais nous ne faisons pas de politique aujourd'hui, sinon pour dire que vous avez aussi une grande confiance dans la vie, et en même temps vous savez que d'autres personnes de vos communautés souffrent. Alors cette religion, c'est une religion, elle est très récente.
Elle a effectivement 170 ans, elle est née au siècle passé, en Iran, comme d'ailleurs toutes les religions qui sont nées en Orient. Et puis après, elle s'est disséminée partout dans le monde.
C'est ça. Vous disiez en aparté qu'il y a déjà plusieurs millions de personnes qui se reconnaissent des bahaïs, mais on peut être pygmé, papou, américain et français, et de confession, de croyance bahaï.
Oui, parce que ce qui compte, c'est la diversité aussi, l'unité dans la diversité. Donc peu importe l'aspect que peut revêtir cette croyance, puisque ce qui compte, ce sont les valeurs ou les principes, et après chacun interprète dans sa vie quotidienne comme il le veut, comme il l'entend.
Avec, j'allais dire, un principe, c'est qu'il n'y a pas de principe, qu'il n'y a pas de dogme. Non, parce qu'en fait, c'est un petit peu une... J'aime bien vous provoquer dans votre recherche et dans votre bonne foi, de dire, oui, il n'y a pas de dogme, c'est une recherche, et chacun... Et à la recherche de sa propre vérité. Il n'y a pas de clergé.
Il n'y a pas de clergé parce que même si ça a été nécessaire de par le passé, entre un envoyé divin et l'humanité ou le peuple à qui ce clergé s'adressait, maintenant on pense que l'humanité a atteint un stade de son évolution qui fait qu'on peut, d'après les écrits qui sont très nombreux dans la foi, étudier, réfléchir, analyser et comprendre à sa mesure. Et l'avantage de ceci, c'est qu'on ne va jamais imposer sa propre interprétation. Donc chacun est libre d'interpréter, d'après tous ses nombreux écrits, ce qu'il comprend de la foi bahaï. Et voilà.
Chacun est responsable de la lumière qui est en lui-même et doit se recueillir pour aller chercher ce qu'il y a dans le fond de son cœur.
Oui.
C'est... pas seulement la recherche d'une sagesse, mais c'est aussi une ouverture aux autres, de ne pas juger, et aussi un appel à, sans cesse, je pense, à une conversion soi-même.
Oui, une conversion au sens où c'est un approfondissement, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire?
C'est ce que je veux vous faire dire, mais le journaliste que je suis, et surtout, j'allais dire, le sociologue qui est agnostique dans son analyse... des autres ou des religions, ils cherchent des correspondances. Et lorsqu'on dit il y a des rites, il y a des moments forts, eh bien, je pense que vous allez nous parler de ce prophète, donc de cet envoyé divin, monsieur ou en tout cas Baha'i.
Baha'u'llah. On ne peut pas dire monsieur parce qu'en fait, c'est un titre qui veut dire gloire de Dieu. Et pour revenir... Avant le clergé, il y avait quoi déjà?
Avant, je vous posais la question du clergé, qu'il n'y a pas de clergé.
Et il n'y a pas de dogme non plus, parce que, en fait, on peut penser que tout ce qui est dogme, rituel, etc., c'est juste une enveloppe, une coquille, une coque. Et la substance de nos jours, elle n'a plus besoin d'être soit portée, soit protégée par quelque chose. Et donc, elle peut vraiment s'exprimer. Et la foi n'a pas forcément besoin de support matériel. Ou visuel, etc. Et c'est quelque chose, parce que c'est comme une lumière, comme vous disiez, et elle essaye de...
D'irradier. Chacun. Et justement aussi, cette question complexe pour moi, vous dites, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de directive. Hein, c'est ça, question de cette... on va dire, il y a quand même une institution, et vous allez nous parler des neuf fêtes. Mais déjà, dans l'intimité de chacun...
Oui.
C'est cette rencontre avec un au-delà, avec un mystère.
Oui, alors, il y a effectivement une institution. Il y en a une au niveau international qui se trouve à Haïfa, en Israël. Sinon, il y en a également une à chaque échelon, national et local. National et local, en fait, ce sont des personnes qui sont élues pour un an par tous les Baha'is. Mais... quand on dit qu'il n'y a pas de porte-parole, ça veut dire que, encore une fois, chacun est libre de comprendre comme il veut, et donc il ne peut pas imposer sa vision des choses. Et il peut y avoir des directives, mais ce sont toujours simplement des conseils qui sont donnés pour mieux comprendre ou pour entreprendre des actions.
Vous qui êtes franco-iranienne, vous pourriez dire que c'est une conception très ouverte de la laïcité. Car ce n'est pas une molatocratie, ce n'est pas un régime, on va pouvoir dire en France, y a des principes républicains qui disent que chacun peut changer de religion, oui. En avoir une ou ne pas en avoir. Donc c'est je pense, très proche de ce que vous venez de nous dire. Et alors, oui, je parlais d'une institution parce qu'effectivement, s'il y a un envoyé divin, qui, à un moment donné, s'est senti porteur d'une révélation.
Oui.
Et c'est justement l'une des premières fêtes lorsque l'on rappelle sa naissance. Chaque année, le fils du vizir, du shah, est venu au monde. Mais quand il a compris qu'il avait cette mission,
oui.
C'est encore une autre date qui est fêtée par les Baha'is dans l'ensemble du monde.
En fait, il y a sa naissance, il y a sa déclaration et il y a l'ascension de Baha'u'llah.
Au mois de mai, chaque année.
Au mois de mai, chaque année.
Qui font que vous faites bien, vous, les Baha'is, partie d'un groupe qui se sent solidaire.
Oui.
Et vous m'avez d'ailleurs montré aussi une bague qui est particulière.
Cette bague, on n'est pas obligé de la porter, mais simplement, ça symbolise qu'entre l'humanité et Dieu... il faut nécessairement un chenal, un canal, parce qu'on ne peut pas avoir un accès direct à ce qui est invisible, à l'au-delà. Et donc, c'est par l'intermédiaire de tous les envoyés divins, quels qu'ils soient. Depuis l'aube des temps, il y a Krishna, il y a Bouddha, il y a Mohammed, il y a Jésus, il y a tout le monde. Enfin, il y a tous ceux que Dieu a envoyés. Et à chaque fois, ce sont les mêmes principes qui sont énoncés, qui est l'amour du prochain, etc. Et puis après, il y aura à chaque fois des principes supplémentaires qui sont adaptés
aux communautés locales et aux époques.
Pas locales, mais justement, parce que peut-être qu'avec Baha'u'llah et avec la foi Baha'i, l'humanité est arrivée à un stade où cette religion peut s'adresser à toute l'humanité. Et donc, ça ne peut pas être local.
Comme vous disiez tout à l'heure, il y a les Pygmées, il y a les Papous, il y a les Américains, les Français. Mais si nous étions à la télévision, nous verrions qu'il y a, bien deux étoiles.
Oui.
Et entre les deux étoiles, il y a trois lignes horizontales et une grande ligne verticale. C'est ce que vous essayez de nous expliquer tout à l'heure et c'est le symbole de cette représentation, j'allais dire du monde, mais de l'au-delà.
Oui.
de l'ouverture à la transcendance.
Oui, parce que pour les Bahaïs, la vie ne s'arrête pas à la mort physique. Vraiment, l'âme continue dans l'au-delà où il y a plusieurs mondes. Et on ne peut pas savoir grand-chose parce qu'en fait, chacun, parce qu'on a suffisamment à faire sur cette terre pour ne pas avoir à s'occuper de ce qui va se passer après. Après où il n'y a ni espace, ni temps, mais l'âme évolue indéfiniment.
Avec donc toute une interprétation de la vie après la mort. Mais ça, c'est ça après la pause, parce que vous nous avez apporté justement le chant de ces Corses qui sont bahaïs, et ce que beaucoup de Français, de résidents en France ignorent. Et donc, nous l'écoutons et vous allez nous commenter ces paroles.
D'accord.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Madame Nava Naghighi, vous êtes angliciste, vous êtes franco-iranienne et bahaï. Vous allez nous parler de un peu plus encore de cette religion méconnue en France. Mais d'abord, je devrais dire, votre prénom signifie la mélodie. Et nous venons d'écouter ce chant corse que vous nous traduisez.
Il s'agit de la guérison, mais en fait, ça montre bien que la guérison, souvent, elle doit être spirituelle d'abord, pour ensuite pouvoir être physique ou émotionnelle ou sur tout autre plan. Et pour revenir aussi à ce qu'on disait, ce sont des Corses qui ont pris la liberté parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut avec, les écrits bahaïs, tant qu'il y a une dignité qui est respectée. Donc, ils ont mis en chant cette prière qui a été révélée, alors que des Persans l'auraient fait autrement. Peut-être sans instrument ou avec d'autres instruments comme le santour. Et ça, c'est vraiment le cœur qui parle lorsqu'on interprète un chant. On peut simplement lire la prière ou la mettre en musique.
Voilà. Vous dites on peut faire ce qu'on veut, mais moi je pense que c'est pas tout à fait vrai. Certaines religions parlent de la soumission à Dieu, de l'obéissance. Il y a quand même dans son cœur de dire « je ne peux pas faire du mal à autrui ». Et l'adage, c'est de dire « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même ». Mais vous commencez la journée par une prière et vous terminez la journée souvent par une prière. Et je pense que c'est bon pour nos auditeurs que vous donniez un exemple dans votre langue qui est le farsi, mais vous êtes également parfaitement francophone et vous avez enseigné l'anglais pendant très longtemps. Alors, vous arrivez dans votre conscience à jongler avec ces langues. Quelle est la langue de la prière ?
Oh, je pense qu'il n'y a pas forcément de langue, parce que justement, il y a une prière en persan, mais je ne la connais pas, je ne connais pas la traduction en français, qui dit que nous sommes tellement impuissants par rapport à Dieu, nous sommes tellement humbles et tellement... Finalement, il y a aussi enfin, ces notions de soumission et d'obéissance dans la foi pareille, qui font que tout ce qu'on s'évertuera à dire pour louer Dieu, ce sera comme la salive d'une araignée qui essaye de tisser une toile pour arriver à Dieu. Ça veut dire que c'est vraiment insignifiant. Donc, peu importe la langue, il se trouve que moi, je suis sensible au persan, parce que c'est ma langue maternelle et que j'aime beaucoup cette langue, mais je pense qu'il ne faut pas s'appesantir sur la langue en elle-même, ou ça n'a aucune importance. Il se trouve que moi, je suis sensible au persan et à l'anglais quand je fais une prière, mais c'est personnel.
Vous rentrez dans l'intimité qui est au-delà des mots. Alors justement, vous êtes aussi sensible à toutes les civilisations, puisque votre papa et votre maman sont allés en Algérie, puis ensuite ont circulé du fait de la discrimination, et votre papa a été traîné dans la boue et dans la rue. Il a pu se sauver alors qu'il était gynécologue et qu'il dirigeait une maternité, et vous me disiez 500
500,
naissances
oui.
par mois.
Oui.
Et pourtant, cette qualité, cette compétence lui a été refusée au nom même d'une soi-disant impureté de cette foi que vous nous montrez et qui est une recherche d'une sagesse. On se trouve là devant le fait qu'il y a sans doute un mystère de l'humanité dans la non-reconnaissance des autres et pourtant dans le désir de vivre en paix.
Un mystère de l'humanité.
Le mystère de la violence, le mystère de la discrimination, de dire je n'ai pas les mêmes croyances que toi, donc tu n'as pas le droit d'exister. Et pourtant, on dit bien, il y a une conviction dans la noblesse de la nature humaine.
Oui, c'est pour ça que je ne sais pas si on pourrait dire le mystère de l'humanité. Je pense que dès qu'il y a un manque d'éducation, alors l'humanité peut vraiment devenir perverse. Et c'est pour ça aussi que dans la foi bahaï, il y a beaucoup d'espoir. Ça veut dire qu'on ne va pas se dire un jour l'humanité va disparaître parce que justement on a les outils. Et les
Pas
outils.
d'apocalypse, pas de fin du monde,
Voilà.
pas de collapsologie.
Oui.
Et votre papa vous expliquait, vous parlait dans votre enfance de toutes les religions. Et vous aviez un tableau, je crois,
Cuisine.
dans
Cuisine.
votre cuisine. Très bien, donc c'est vraiment très pragmatique, très terre à terre. On dit bien que les Hébreux apprennent les psaumes avec des lettres de miel. Hein? Et la culture, c'est de dire, vous ne pouvez pas, pour l'instant, vous êtes trop jeune, choisir la confession, la religion que vous aurez, mais à 21 ans, parce que chez les bahaïs, nous ne pouvons, enfin, vous ne pouvez pas être bahaïs avant 21 ans.
Ça veut dire, oui, officiellement, on ne peut pas voter, on ne peut pas, mais on peut tout à fait prier ou faire ou participer aux activités ou fêtes si l'on veut, mais vu qu'on a quand même une administration, on a les assemblées, ce n'est qu'à 21 ans qu'on peut élire et être élu pour diriger une communauté bahaïe dans un lieu donné.
Et en conscience s'affirmer hein, de cette communauté. Et en même temps, vous avez aussi une grande culture. Nous parlions en chemin de Jonas et aussi de Joseph, de Moïse, de tous ces, on va dire, prophètes, de ceux qui ont dit qu'ils avaient un message à transmettre à l'humanité. Mais en même temps, vous dites, oh non, non, il n'y a pas d'ange chez nous. Raphaël, Gabriel, bon, c'est une représentation d'un autre monde que nous ignorons. Pas besoin de saints ou d'anges. Accès direct à la divinité ou au mystère.
Alors, direct, pas à la divinité, puisque justement on a besoin de manifestations qui va apporter son éclairage à travers les écrits. Mais c'est vrai qu'on n'aura pas de mythe, on n'aura pas de ces
De
choses,
dogme,
de dogme.
mais la rencontre dans la nature. Vous êtes botaniste aussi.
botaniste, non. Enfin, j'aime beaucoup la flore et la faune, et,
oui.
Mais botaniste, non.
Ben, signe de la vie qui ressurgit chaque fois. On fait des boutures, on fait des croisements, c'est-à-dire l'homme est le jardinier de la nature. Mais s'il n'est pas là, très vite, les plantes et les fleurs vont risquer de peut-être de devenir abattardies. Ou en tout cas, l'homme sait que, par exemple, en Iran, le parfum des roses disparaît, et d'ailleurs, est le résultat de toute une culture.
Oui, mais je ne pense pas que la flore ou la faune vont disparaître sans la main de l'homme. La main de l'homme, quand en fait il veut quelque chose comme créer un jardin, là il lui faut de la connaissance et il faut pouvoir tailler ou faire autre chose ou faire des croisements. Mais dans la nature, on n'a pas besoin de la main de l'homme.
Vous disiez quand même que votre papa généticien, il savait gynécologue, excusez. Devait prendre une décision très vite pour savoir si l'embryon était viable, s'il fallait faire une césarienne. Et ce sont des gestes techniques très, très précis. Et vous-même, lorsque vous enseignez l'anglais, vous faites aussi l'expérience d'une formation.
Oui.
D'ailleurs, vous étiez en Alsace.
Oui.
Alors, vous parliez de la laïcité tout à l'heure, mais la laïcité en Alsace n'est pas la même... Et quand vous étiez avec des enfants turcs et qui ont une certaine représentation du monde, eh bien vous deviez comprendre la culture des parents de ces enfants turcs. Et vous ne mettiez pas votre bague signe distinctif par respect pour la laïcité, alors que l'Alsace du Concordat n'est pas sous le même régime de la laïcité.
Oui, oui. Parce qu'en fait, c'est important quand on est baraillé de respecter la loi du pays. Mais on nous demandait quand même de ne mettre aucun signe distinctif d'ordre religieux. Voilà, c'est pour ça que je l'enlevais, mais j'aurais pu la mettre. Je pense que c'était pas si important que ça.
Oui. Vous êtes aussi en charge de votre maman qui a Alzheimer. Donc c'est aussi toute une dimension de votre existence actuellement qui fait qu'après avoir enseigné l'anglais, après avoir charge de votre papa de 90 ans, vous êtes aussi devant ce mystère de la vie et de la fraternité. Vous nous avez consacré du temps, mais je crois que vous avez un poème parce que l'entretien va bientôt se terminer et vous avez suggéré de le dire dans votre langue maternelle.
Avec plaisir. Ebi gane ye ba yegane Sham edelat bara frukhte ye daste qudrat man ast An ra be bad haye mukhalif nafs va hava khamosh makun va tabib jami' illat haye to zikr man ast faramoshesh man ma.
Nous sommes partis dans la contemplation. Nous pourrions faire cette prière commune pendant un temps certain, mais je pense que nos auditeurs vont accepter votre traduction. Votre sœur nous disait tout à l'heure, oh, tu parleras dans notre langue et je traduirai, mais s'il vous plaît.
En fait, c'est juste pour dire que le cœur est l'endroit où Dieu peut venir. Et donc, il faut essayer de ne pas souiller son cœur par des choses qui sont fugitives ou passagères. Et il faut donc essayer de le préserver de toute affliction qui est, par exemple, l'égoïsme ou d'autres qualités qui détruisent un peu l'homme.
Rechercher l'harmonie. Et vous disiez, il y a des mots qui ont une signification, pas de jalousie. Rester humble dans son comportement, essayer d'améliorer le monde. On va dire que ce sont des principes de toutes les religions. Mais beaucoup de religions cherchent aussi un adversaire, de dire non, il y a une pureté, nous sommes contre les diables. Et le terme de religion, c'est parfois, dans l'histoire, de vaincre un ennemi qui est extérieur à soi, plutôt que l'ennemi
intérieur.
Que l'on a à l'intérieur à soi. Et j'aime bien ce symbole de dire lorsque tu as un doigt qui se pointe pour accuser ton frère, n'oublie pas que tu as trois doigts qui se retournent contre toi. Donc cette sagesse, vous nous l'apportez aujourd'hui. Nous aurions encore à discuter longtemps sur cette religion qui est mal connue et qui pourtant regroupe plus de 6 millions de personnes dans le monde. Et vous disiez en France
2000 personnes à peu près.
Qui se retrouvent de temps en temps lors de ces fêtes, justement, lorsque il y a eu en 1863, la révélation, le 21 avril, de messagers du divin, et le nouvel an.
Oui, Nowruz, le 21 mars.
Et ce jour-là, vous continuez à travailler, mais vous rentrez chez vous peut-être un petit peu plus tôt.
Oui, c'est vrai qu'en fait, on ne chôme pas ces jours-là, simplement on fait des prières. Mais après, ça dépend encore de chaque culture. En Nouvelle-Calédonie, il y a les Baréis qui font des danses, des chants, etc. Mais ça n'a aucune importance.
Vous viendrez nous en reparler une autre fois. Merci beaucoup, Nava.
Merci à vous.
Et merci à Christophe.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt.